ensemble. Donc je vous invite à trouver Exode. Nous sommes en train, petit à petit, de parcourir au moins la première partie de ce livre ensemble à Sarcelles. Et le livre d'Exode est divisé presque en deux. La première partie, c'est vraiment l'Exode, d'où vient le nom. C'est la délivrance d'Israël. Et puis, mais Israël est délivré, l'armée de Pharaon est détruite, avant le chapitre 15. Et donc la suite, c'est l'alliance de la loi, les plans pour le tabernacle, la construction du tabernacle. Et donc nous voyons que le thème d'Exode, pour englober tout le livre, c'est que Dieu délivre son peuple pour demeurer avec lui. Hein, il délivre son peuple parce qu'après il va habiter, le tabernacle va être au centre même de la nation. Et donc il s'est délivré pour qu'il puisse demeurer. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Quand il nous sauve, c'est pour demeurer avec nous. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, mais lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, eh bien je reviendrai, je prendrai avec vous afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et même quand on prend la scène que vous avez appris ce matin, vous avez ces deux parties d'Exode. Vous avez le corps de Christ dans le démontré par le pain où il donne sa vie pour nous délivrer. Et puis vous avez cette coupe qui est appelée la coupe de la nouvelle alliance, parce que quand il donne sa vie, c'est pour entrer en alliance avec nous et demeurer avec nous. Donc on va juste regarder la première partie du deuxième chapitre et juste une partie du message que j'ai prêché là-bas. Ne vous inquiétez pas trop. Et on va lire la naissance de Moïse. C'est une histoire que même les enfants devraient s'y intéresser. Et je vais commencer avec le dernier verset du chapitre 1. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Il n'a pas de nom à ce stade. Et même sa mère, c'est pas elle qui va lui donner son nom. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de janc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. C'est vraiment là la surprise, hein. C'est la fille de Pharaon qui arrive. Rappelez qui est Pharaon, hein. Dernier verset du premier chapitre. C'est le Pharaon qui avait donné l'ordre de tuer tous les garçons. Sa propre fille arrive maintenant. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alors, si on avait la musique de film ici, ça serait très très intense maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle, la fille de Pharaon, qui a eu l'idée de jeter ses garçons dans le fleuve, elle en a eu pitié. Et elle dit, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Elle n'est pas dupe, hein, c'est exactement ce qui s'est passé, elle comprend. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils, et elle lui donna le nom, c'est le premier nom maintenant qu'on va lire dans cette histoire, le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Alors, nous voyons ici, Moïse passe d'une position vraiment désespérée à une préservation divine de la part du Seigneur. Et je veux attirer votre attention sur la providence que nous voyons dans ce passage. Et juste noter en premier lieu que c'est une providence silencieuse, ici. Le nom de Dieu n'est pas mentionné dans cette histoire. Il n'y a pas d'intervention miraculeuse de la part de Dieu. Il n'y a pas d'ange qui vient aux parents de Moïse pour lui dire « Vous allez avoir un enfant » ou peut-être la fille de Pharaon, elle a une vision ou un rêve comme a eu le Pharaon au temps de Joseph. Il n'y a pas de vision, il n'y a aucun signe miraculeux des cieux. Il n'y a rien de l'ordre de surnaturel. Il n'y a rien qui flotte dans les airs. Rien de surprenant dans un sens. Sauf que tout est surprenant, n'est-ce pas? Et on pourrait arriver à la fin et attribuer tout cela à de la chance, ou si on est de l'autre avis, à de la malchance. Alors, plus tard en Exode viendront des miracles, n'est-ce pas? Vous les connaissez. Mais à travers cette histoire, je crois que Dieu veut communiquer à son peuple, le peuple d'Israël, qu'il a lu en premier, mais nous aussi, que Dieu agit avec autant de puissance, avec autant de présence et avec autant d'efficacité dans le silence que lorsqu'il fait de grands miracles. C'est un peu comme tout le livre d'Esther, vous connaissez, où il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a rien aussi de l'ordre du miraculeux. Donc, ça c'est vraiment nos vies, n'est-ce pas? La plupart de nos vies, c'est une providence silencieuse. Et on peut arriver à la fin et dire, tiens, c'était de la chance, hein? Ou de la malchance? Ou est-ce que c'était la main de Dieu? Et je crois que Dieu veut nous apprendre à voir la main de Dieu. Parce qu'il peut y avoir plein de choses qui arrivent dans nos vies et nous restons ignorants au fait que c'était la main de Dieu qui a tout contrôlé. Et donc, nous allons voir la providence dans ce récit. Elle est silencieuse, mais elle n'est pas pour le moins, surprenante. Elle est vraiment belle, en fait. La providence de Dieu est spectaculaire dans le sens que Dieu opère contre Pharaon ce qu'on pourrait appeler un retournement ironique ou un retournement de sort. Vous connaissez l'ironie du sort? C'est selon le dictionnaire, c'est un désagrément si inattendu qu'il passe pour une amère moquerie du sort. C'est-à-dire, non seulement la fin n'a rien à voir avec ce qu'on pensait, mais c'est tellement le contraire, c'est l'exact opposé de ce qu'on espérait, on se demande si on se moquait de nous. Donc je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait cette histoire présenté par un comédien, mais il parlait, je crois que c'était une femme en fait, mais elle parlait du fait qu'elle était, une soir elle rentrait de chez elle, et elle sentait que quelqu'un la suivait, et donc elle se mit à courir, bon il y a tout ce long périple qu'elle fait, jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle, elle trouve ses clés, elle les met dans la porte, elle ouvre la porte, elle entre, elle ferme la porte à clé, elle se dit, finalement sain et sauf chez moi. Et lorsqu'elle va pour mettre la lumière, elle entend une voix grave derrière elle. Hein, ça fait l'ironie du sort. Le moment qu'elle croyait arriver là, à l'endroit où elle serait en sécurité, eh bien là, c'était là où était le danger. Et c'est quelque chose qui se passe ici avec Pharaon. Il y a un retournement Et c'est un peu la marque de fabrique de Dieu. Il aime retourner les choses de manière à humilier et même ridiculiser les pécheurs qui sont tellement remplis d'orgueil. Rappelez du psaume 2 où les nations disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Et celui qui siège dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Et le Seigneur se moque d'eux. Et il se moque de Pharaon ici. Et je veux vous montrer la grande ironie du sort. Alors reprenez le dernier verset de chapitre 1, Exode 1, 22. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alors il y a trois choses à noter que font éclater la gloire de Dieu au prix de l'humiliation de Pharaon. Il y a le rôle que doit jouer tout son peuple. Il y a l'utilisation qu'on doit faire du fleuve. Et puis il y a les filles, il y a les femmes ici. Alors, la première chose, c'est quand il dit, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Alors, c'est important à noter. Parce que quand Pharaon donne l'ordre à tout son peuple de faire périr le peuple d'Israël, Dieu se sert de qui? La fille de Pharaon pour préserver le sauveur du peuple d'Israël. Hein, ça c'est l'ironie du sort pour Pharaon. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Il a un peuple, c'est son peuple. Hein, il se voit comme leur roi. Il a le droit de les commander et il leur donne une mission. À tous maintenant. Parce qu'avant il avait essayé avec de sa chance, ça n'a pas marché. Donc tout le monde maintenant, vous devez faire périr les enfants, les garçons d'Israël. Et nous allons retrouver le nom de Pharaon 5 fois dans les 10 premiers versets du chapitre 2. Mais chaque fois c'est en lien avec un de ces sujets et c'est pas le moindre des sujets, hein. Si vous regardez le verset 5, chapitre 2, c'est la fille même de Pharaon qui descendit au fleuve. Alors, nous n'allons jamais connaître le nom de cette femme, parce que dans le récit, cette histoire, son identité personnelle n'est pas le plus important. Ce que le Saint-Esprit veut souligner à chaque fois, c'est sa relation avec Pharaon. C'est ça qu'il veut qu'on capte à chaque fois. Hein, donc, regardez le verset 7. Alors, la sœur de l'enfant dit à qui? La fille de Pharaon. C'est vraiment comme ça qu'il faut le lire, hein. La fille de Pharaon! Verset 8. Va, lui répondit. La fille de Pharaon! Verset 9. La fille de Pharaon, lui dit. Et verset 10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Vous voyez, Pharaon, il veut se servir de son peuple pour tuer le peuple de Dieu. Il dit, moi, je suis roi, on est puissant quand même, on va le faire ensemble, allez, tout le monde ensemble. Et Dieu se sert de la fille même de Pharaon pour sauver, pour nourrir, pour éduquer, pour sauver son propre peuple. Et grâce à cela, notez le grand retournement dans les occurrences de ce mot « fils ». Alors, on ne voit pas très bien en français, mais regardez chapitre 1, verset 16. Il leur dit, c'est Pharaon qui parle ici, à ces sages-femmes, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, littéralement c'est le mot « fils », faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez la vivre. » Il y a cette différence entre fils et filles. Les fils, faut les faire mourir. Okay. Verset 22 maintenant. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout fils qui naîtra. Okay. Maintenant, chapitre 2, verset 2, cette femme devint enceinte et elle enfanta quoi? Encore le même mot. Ça c'est la situation désespérée. Elle découvre qu'elle vient de donner naissance à exactement ce que Pharaon a dit de jeter dans le fleuve, le fils. Et pourtant, notez le grand retournement, verset 10, chapitre 2. quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme quoi? Un fils. C'est beau ça, non? Pharaon dit qu'il faut tuer tous les fils d'Israël et le grand retournement ici, c'est que par le biais de sa propre fille, un des fils d'Israël qu'il a dit de tuer devient qui? Son propre petit-fils à lui. Et c'est même sa fille qui donne à Moïse son nom, hein. Mais on ne connaît pas le nom du Pharaon, mais on connaît le nom que la fille de Pharaon a donné à ce fils que Pharaon lui-même a dit qu'il fallait tuer. Et les premiers destinataires de ce livre connaissaient bien Moïse, bien sûr, c'est Moïse qui a écrit ces choses. Et donc ils savaient ce qui s'est passé par la suite avec Moïse, et la libération, l'exode, etc. Et cela a dû les faire sourire, peut-être même rire, de penser que, de réfléchir à ce pharaon enragé contre les Israélites, et en même temps il est levé dans son propre palais. Il était complètement ignorant, fait qu'il payait, il éduquait, il nourrissait celui qui allait devenir le libérateur du peuple d'Israël. Dieu le savait, et lui restait complètement ignorant. Le psaume 76, verset 11, dit que l'homme te célèbre même dans sa fureur. Le Darby le traduit ainsi, car la colère de l'homme te louera. Pharaon est en colère. Et Dieu se sert de lui pour héberger son futur libérateur. Alors ça, c'est un grand retournement, un ironie de sort, c'est l'utilisation du peuple que veut faire Pharaon, et Dieu dit, ah, je vais me servir de ta propre fille, quelqu'un dans ta maison, pour accomplir mes desseins, moi. Deuxième ironie du sort pour Pharaon, hein, c'est que quand Pharaon décide que les femmes ne représentent pas un risque pour lui, mais plutôt un atout, Dieu les utilise pour sa perte. Et notez le verset 22 encore. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout fils qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ce n'est pas qu'il dit, bon, il faut tuer les fils, et après les filles, je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez. Non, il y a cet ordre positif, vous laisserez vivre toutes les filles. Les filles sont après tout quoi? Ben, des filles! Qu'est-ce qu'elles peuvent faire contre Pharaon? Et reculez au chapitre 1, verset 9, vous allez voir de quoi il avait peur, Pharaon. Hein? Exode 1, 9, Pharaon va dire à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'ils ne s'accroissent. Et voici sa crainte, hein, que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Mais, ce n'est pas l'armée française actuelle, hein, les filles ne font pas la guerre à l'époque. Elles ne font pas la guerre, elles ne vont pas faire la guerre contre l'Égypte. De plus, elles peuvent facilement être mariées à des Égyptiens. Et puis assimiler dans la société égyptienne, et dans le pire des cas, on peut les utiliser comme servantes, comme domestiques, comme esclaves. Alors pourquoi pas? On va les laisser vivre. Mais l'ironie du sort ici, pour Pharaon, c'est que tout ce qui se passe ici, que nous venons de lire, se passe grâce à des femmes. Vous avez noté ça? C'est la fille de l'enfant qui va dire à la mère de l'enfant qui va aller parler avec la fille de Pharaon. C'est une histoire de femme. Et déjà au chapitre 1, on n'a pas lu, mais c'est deux sages femmes qui déjouent les plans qu'avait élaboré Pharaon et qui le mettent à mal pour cela. Et puis au chapitre 2, nous trouvons trois autres femmes. Elles vont gâcher tous les plans de Pharaon. Et elles sont présentées dans leur relation avec ces hommes. D'accord? Donc, on n'a pas leur nom. C'est soit la mère de l'enfant, la sœur de l'enfant, ou la fille du pharaon. Hein, c'est vraiment, dans un sens, c'est l'histoire de deux hommes. C'est l'histoire de Moïse et le pharaon. Mais ils ne sont pour rien, en fait, dans cette histoire. Ils ne peuvent rien faire. Le bébé, il ne peut rien faire, et pharaon ne peut rien faire. C'est les femmes qui agissent ici. Une de ces femmes est même entourée par des servantes, hein, c'est-à-dire d'autres femmes qui l'accompagnent, qui lui obéissent. Donc toutes les actions dans ce chapitre sont entreprises par des femmes. Ce sont des femmes qui prennent l'initiative. Il y a des actes de foi, il y a des actes de bravoure, il y a des actes de pitié, il y a des risques qui sont pris, il y a des négociations qui sont entreprises, il y a des accords qui sont conclus, et tout cela entre des femmes. Et le seul acte, ça c'est pour vous les hommes, hein, le seul acte entrepris par un homme est au verset 6. Vous voulez voir ça? C'est le seul acte entrepris par un homme. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, c'est un petit garçon qui pleurait. Voilà, tout ce que font les hommes dans cette histoire. Ils pleurent. Et pourtant, leurs noms sont pas... On apprendra plus tard, hein, que la sœur a le nom de Myriam, que la mère a le nom de Jacobède, je crois. Mais ici, ça les lie chaque fois à ces deux hommes qui sont pourtant qui n'ont rien à faire vraiment dans cette histoire. Et donc les mêmes femmes que Pharaon avait choisi de préserver parce qu'il pensait bon, elles je peux les contrôler, elles peuvent m'être utiles. Eh bien, elles sont devenues des instruments de sa perte. Et le comble est que sa propre fille a eu pitié et aime et élève maintenant au sein de sa propre maison un ennemi qui va humilier son pays comme son pays n'a jamais été humilié avant. 1 Corinthiens 1, 27 dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alors, Pharaon a dû savoir, hein, il peut jamais contrôler une femme. Hein. Peut-être ça, c'est la leçon. Mais je crois que la leçon, c'est que Dieu se sert même de ce que l'homme pense être faible. Et puis, le troisième retournement, vous pouvez deviner, concerne quoi? Le lieu. Hein, parce que, verset 22 encore, pour revenir à verset 22, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve. » Donc, quand Pharaon a choisi le fleuve comme instrument de mort, pour ça j'ai dit, c'est peut-être pas des eaux paisibles, hein, pour tous, mais Dieu l'utilise comme un instrument de vie. Alors, quand il dit fleuve, c'est le mot... utilisé pour Nil, souvent c'est traduit le Nil. Et ça, parce que c'est un mot égyptien pour fleuve, parce que pour les Égyptiens, il y avait vraiment un seul fleuve, leur fleuve, le Nil. Et c'est comme si Dieu disait, ok, Pharaon veut que tout se joue au fleuve, d'accord, j'accepte. Tout va se faire au fleuve. Et l'histoire du chapitre 2 se déroule à un endroit précis, au fleuve. Et ce mot, nous allons le trouver, fleuve, nous allons le trouver trois fois dans Exode 2, 1 à 10. Notez la prochaine occurrence après 1, 22, c'est au chapitre 2, verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle, c'est la maman, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi elle a voulu faire cela? Pourquoi choisit-elle le fleuve? C'était le lieu de la mort. C'était le lieu précis où on devait jeter tous les bébés hébreux. On peut penser qu'une mère voudrait amener son fils aussi loin que possible de ce fleuve. Ce fleuve maudit! Je veux même pas le voir! Mais elle l'amène au fleuve. Bon, notez d'abord qu'elle ne pouvait plus cacher l'enfant. C'est important. Verset 3, il dit, ça nous explique, hein, ne pouvons plus le cacher. Elle va l'amener sur le bord du fleuve. Elle sait qu'elle doit exposer son enfant. Elle ne peut plus le cacher au monde. Elle doit l'exposer d'une manière ou d'une autre. Il va être découvert. Elle n'a pas de doute dans ce fait. Et donc tout se joue pour elle dans la manière qu'il sera découvert. Et acte 7, verset 17, il y a Étienne qui parle de ce même événement dans sa prédication. Je vais vous lire ce verset. Il dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham et le peuple. Et le peuple s'accrut et multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, écoutez cette phrase, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. La semaine dit, jusqu'à les obliger à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. C'était la pression, la persécution, forcer les parents à eux-mêmes abandonner ou exposer leurs enfants pour qu'ils meurent. Et la mère de ce garçon va, dans un sens, exposer son enfant. Elle va, d'une certaine manière, abandonner son fils. Elle va vraiment, dans un sens, obéir à la loi de mettre le garçon dans le fleuve. Mais elle ne va pas le faire n'importe comment. Et c'est là où on voit son courage et surtout sa foi en Dieu. Elle ne va pas le jeter dans le fleuve. Mais regardez le verset 3. Et je vais vous lire ça dans la Bible annotée. Quand elle ne peut plus le tenir caché, elle prit une arche. Une arche en roseau. L'induisit de bitume et de poix et elle y mit le petit garçon. Puis elle mit l'arche dans les jonques sur la rive du fleuve. La Bible attire notre attention sur l'œuvre de Dieu ici, en appelant ce mot, cette petite nacelle, d'un mot très spécifique. Utilisé une seule autre fois, avant, par le même auteur humain, même Moïse, en parlant de qui? De Noé. C'est la seule autre occurrence de ce mot. Et il va utiliser exactement le même mot. Et c'est une indication que Dieu a sauvé Moïse de la même manière qu'il a sauvé Noé. Et ça parle aussi de la foi de sa maman. Parce que elle le place dans les eaux du Nil, là où devait arriver la mort, le lieu de la mort. Elle va le confier aux eaux de la mort, mais pas directement. Et notez le même verbe utilisé deux fois là, donc je relis le verset 3 dans le Darby. Quand elle ne peut plus le tenir caché, elle prit une arche en roseau, l'induisit de bitume et de poix, elle y mit le petit garçon, puis elle mit l'arche dans les jonques sur la rive du fleuve. Donc, elle met l'enfant dans l'arche, et puis elle met l'arche dans le fleuve. Et ça change tout. L'arche est pour la mère, donc, le moyen de son salut. On voit qu'elle avait la foi, elle avait l'espérance que cette arche allait préserver son enfant. Elle obéit dans un sens, comme j'ai dit, au roi, au pharaon. Elle met l'enfant dans le fleuve, mais elle le met, on le voit au milieu des jonques sur le rive du fleuve, là où il peut facilement être surveillé, il ne va pas être emporté. Et puis elle va poster qui? Elle va poster la grande sœur, non loin de là, et il est dit, même dans le texte, hein, pour savoir ce qui allait se passer. Alors quelqu'un dit, si c'est une mère qui va abandonner son enfant à la mort, et ça arrive parfois, hein, mais elle ne laisserait pas sa grande sœur à côté pour témoigner sa mort. Elle a une certaine espérance. Et puis le fleuve est large et le fleuve est long, hein. Mais il se trouve à l'endroit même où la fille de Pharaon va se promener. Mais la grande preuve de sa foi, c'est qu'elle confie son enfant au fleuve, mais seulement après qu'il soit mis dans une arche. Et donc nous avons Noé et nous avons Moïse qui ont tous les deux traversé les eaux mortelles en empruntant une arche par laquelle ils ont été sauvés. Et pour Noé et Moïse, la même eau dans laquelle tant d'autres ont péri les ont portés au salut grâce à une arche. Vous savez, si vous êtes en Christ, la mort elle-même ne peut que vous porter jusque dans les bras de Jésus-Christ. Parce que Christ est pour nous cette arche. Et Exode 2, verset 5 dit, « La fille de Pharaon descendit au fleuve, donc pour se baigner. » Encore le même mot, ses compagnons se promenèrent le long du fleuve, et c'est là qu'elle voit la caisse, où elle voit l'arche, et elle envoie une servante pour la prendre. Et puis, l'histoire termine, regardez le verset 10, « Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils, et elle lui donna un nom très spécifique, un nom de Moïse, car elle dit quoi ?» Je l'ai retiré des eaux. Là encore, plein de sens. Encore l'ironie du sort, hein, pour le pauvre Pharaon, parce qu'il dit à tout son peuple de jeter les petits garçons dans les eaux, et là, il y a un petit garçon qui court dans son palais à qui sa propre fille va donner le nom de retiré des eaux. Vous voyez, donc, lui dit, il faut les jeter tous dans l'eau, et elle dit, mais celui-là, je l'ai retiré des eaux. C'est-à-dire que Pharaon n'a pas gagné. Et donc, quand Pharaon choisit le fleuve comme instrument de mort, Dieu l'utilise, en fait, comme instrument de vie. C'est le fleuve qui va amener cette rencontre entre Moïse et la fille de Pharaon, qui soit après instruit dans toute la connaissance de l'Égypte. Condamné à mourir sous les eaux, il flotte sur le haut du fleuve jusqu'à ce que la fille de Pharaon le retrouve et qu'il devienne comme son fils. Et donc toute sa vie, Moïse a dû penser à ce fleuve comme le lieu de son salut. Et Moïse pouvait dire à Pharaon ce que Joseph avait dit à ses frères en Genèse 50-20, « Vous avez médité à me faire du mal ». Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Sans ce commandement de jeter dans les fleuves, la mère n'aurait jamais mis dans une arche sur le fleuve, sa fille ne l'aurait jamais retrouvée, il n'aurait jamais pu être éduqué dans son propre palais. C'est cet ordre de les tuer qui est utilisé par Dieu pour le, en fait, ramener un Hébreu dans son propre palais. Alors, vous voyez que, on peut lire ça, on peut dire, ouh, quelle chance pour Moïse. Ou on peut avoir les yeux de la foi pour dire, ça c'est la main de Dieu. Et je crois qu'il veut qu'on fasse la même chose avec nos vies. Et donc juste trois petites applications. D'abord, ne jugez pas les choses par son début, mais par sa fin. Hein, Moïse est né dans une situation désespérée. Il est né même dans la tribu des Lévites, hein, auquel il y avait une malédiction en fait sur cette tribu. Alors vous les jeunes, ne minimisez pas ce que Dieu peut faire de vous malgré votre situation actuelle. Ne minimisez pas. Vous savez pas ce que Dieu peut faire de vous si vous êtes prêt à qu'il vous utilise. Deuxième implication, ne jugez pas l'utilité d'une chose par l'usage que veulent faire les hommes. Le Pharaon veut utiliser son peuple. Le Pharaon veut utiliser le fleuve. Et Et on pourrait dire, donc, surtout pas, ne parlons pas aux Égyptiens et n'allez pas près du fleuve. Non, mais Dieu va utiliser une Égyptienne et il va utiliser le fleuve. Et pensez à la mère de Moïse. Hein, la foi qu'elle a eue de croire que Dieu pouvait se servir du fleuve, du peuple de Pharaon, de la fille même de Pharaon, et d'elle-même, et de sa fille, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont... Mais Dieu peut se servir d'elle pour faire du bien. Elle a réalisé que Dieu peut l'utiliser elle-même, même dans sa faiblesse. Et elle fait ce qu'elle peut et puis elle remet son sort à l'Éternel. C'est vraiment, pour une mère, c'est fabuleux de voir. Hein. Elle fait tout dans son pouvoir, mais en même temps, elle sait qu'il y a un point où elle peut pas rester accrochée, elle remet le sort de son enfant à l'Éternel. Et quand j'ai prêché sur ça, j'ai parlé de l'école de danse qu'on avait avant, appelée, on a eu 2 incendies à cause de cela, et puis on avait interdiction d'utiliser la salle comme un endroit pour réunir le public, parce qu'on n'avait pas d'ascenseur, on pouvait pas mettre d'ascenseur, et ils ont donné un refus, et puis quelqu'un est allé, sans qu'on le demande, hein, regarder le dossier, a découvert que, avant nous, il y avait une école de danse, que le patron avait demandé une dérogation, parce qu'il a dit, bon, si les gens viennent danser, ils viennent pas en fauteuil roulant. Donc, on lui a donné une dérogation pour son école de danse. Ce qu'ils auraient jamais fait pour une église. Et la dame de la mairie, enfin, monsieur du mairie qui m'a appelé, il a dit, monsieur, ils ont découvert que lorsqu'une dérogation est donnée à un lieu, la dérogation reste avec le lieu. Donc, en fait, il m'a dit ça comme ça. Monsieur, vous avez déjà votre permission, ils peuvent pas vous le nier. Et c'est grâce à cette école de danse. Dieu s'est servi d'une école de danse pour permettre qu'on puisse avoir une église là aujourd'hui. Et vous avez probablement des histoires comme ça dans votre vie. Ne dites pas c'est de la chance. C'est la main de Dieu. Autant que dans la vie de Moïse. Et puis, dernière application. Sachez que le lieu de mort peut être pour vous un passage vers la vie, si vous êtes dans la bonne arche, qui est Jésus-Christ. Hein, le dernier ennemi, c'est la mort. Mais en Christ, la mort m'est un gain, parce qu'elle est la porte du paradis. Et elle m'amène auprès du Seigneur Jésus. Alors, soyez assurés que vous êtes dans l'arche et vous n'aurez même pas besoin d'avoir peur du fleuve de la mort. Alors, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.